Bienvenue sur Double Flash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Flash. Bienvenue dans ce super épisode de podcast. Comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Pat, salut tout le monde.
J'ai failli dire épisode de news, mais en fait, comme on fait quasiment que des épisodes comme ça, maintenant je sais plus ce que je dois dire. Donc
ouais, c'est pas faux. Mais on va revenir avec des épisodes plus dédiés et spécifiques. C'est vrai que tous les deux, on a été un peu surchargés. On s'est concentré plus sur les news sur les derniers mois de l'hiver. On va revenir avec autre chose. Avec du contenu et des news, évidemment, mais aussi des sujets un peu plus profonds. Et c'est vrai qu'on fait plus de news en ce moment.
Ouais, mais après, je sais que... Enfin, on a vu que les auditeurs aimaient les épisodes de news, en fait,
plus que les autres. En fait. Ouais, ouais. Mais alors, ce qui est important, c'est aussi que nous, on continue et on aime faire ça. Parce que faire des épisodes de news, c'est bien, mais on aime aussi faire des sujets un petit peu plus profonds et inviter du monde, c'est aussi toujours et super sympa aussi.
Ouais, carrément. On peut déjà annoncer futur épisode. Il y a eu le State of HTML qui est sorti là cette semaine, et puis la Google I/O qui était hier ou avant-hier. Donc le prochain épisode sera certainement basé là-dessus. Donc restez à l'écoute, comme d'habitude.
Avec toutes les évolutions des navigateurs, les nouvelles implémentations des nouvelles API, qu'est-ce que ça va changer? De quoi on avait parlé l'année dernière? Est-ce que c'est toujours en suspens? Ou ça a été validé? C'est déjà intégré? Et le futur, évidemment, what's next sur du HTML, CSS? Et la base du web, quoi, en fait.
La base, c'est clair.
C'est la base du web.
Petit sommaire.
Allez, petit sommaire, on va faire un retour de la conférence française, donc de plein de vidéos qui sont sorties de Devox France, qui est venue avec une batterie de vidéos. Toi, tu les as quasiment toutes regardées, ou en tout cas beaucoup, et t'en as sélectionné quelques-unes qu'on va pouvoir regarder. On va parler de Copilot installé en open source et en local. Qu'est-ce que c'est? On va faire un petit retour sur Next avec Next.js et WordPress, comment on couple ouais, tout ça. On va parler aussi de Doom qui s'installe dans le navigateur ou sur des WordPress.
En CSS,
mais c'est juste énorme. On va parler de CSS Query pour voir en fait comment on fait pour faire du support, du refactoring de PHP, du documentation, comment on fait pour bien documenter. Tout ça, c'est le programme du nouvel épisode de Double Slash. On attaque?
Yeah. Allez, go, c'est parti.
Retour sur Devox. Donc Devox, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des grosses conférences qu'on a à Paris, une seniorité, ça fait déjà plus de 10 ans que ça existe. Il y a beaucoup, beaucoup de présentations, des vidéos, et l'avantage, c'est que beaucoup sont filmés et disponibles sur le web. Donc si vous n'êtes pas dans l'effervescence de cette conférence et vous participez à toutes les conférences en live, vous pouvez les voir quand même sur YouTube. Donc, tout est accessible, super intéressant. Et toi, tu en as noté quelques-unes de conférences, ouais, qui sont vraiment, vraiment intéressantes.
Ouais, comme tu dis, c'est énormément de conférences. Et je suis abonné à la chaîne YouTube, et ça arrivait d'un coup, pouf, un gros bloc de vidéos, tu sais, ça t'envahit ton flux. J'ai quand même sélectionné quelques vidéos et je les ai regardées, hein, évidemment. Alors, il y a un peu de tout en vidéo, hein, y a des vidéos sur du Java, tout ça. Alors, ça, de suite, j'écarte. Non, merci.
Sois pas dur. C'est que, ouais, t'as pas la culture de ce langage là parce que tu l'utilises pas au quotidien. Après tu peux pas nier aussi que il y a beaucoup de boîtes qui sont avec Java, et donc le langage évolue et donc il faut de l'actualité aussi de ça,
bien sûr. Ouais. Donc j'ai sélectionné je sais pas combien il y a de vidéos, je les ai vraiment regardées, c'est une sélection de vidéos vraiment intéressantes à regarder, donc je vous recommande de les regarder. Par des orateurs, comme la première, c'est la compression web, donc c'est avec Hubert Sablener et Antoine Caron. Hubert Sablener, quand il fait des conférences, il est hyper précis, hyper didactique, etc. Il fait toujours des super conférences, Donc, je vous encourage même à regarder d'autres conférences du Hubert. Celle-là, elle est sur la compression. Il explique vraiment comment fonctionne la compression, comment ça a été inventé, tout ça. Et après, évidemment, comment on l'utilise sur le web, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est le plus performant, etc. Donc, elle est vraiment hyper intéressante. Je la recommande vraiment beaucoup, beaucoup, celle-là.
Et, fortement, fortement.
Ouais, fortement, parce qu'en plus, elle est agréable à regarder, tu vois. Ils sont très bons orateurs et tout. Donc, super.
Nice.
Vraiment. On a aussi Julien Degnaud, qui est sur Lyon, je crois, que je discute de temps en temps avec lui sur Twitter. Et il parle des fuseaux horaires. Donc, super intéressant aussi au début, parce qu'il parle de fuseaux horaires, comment ça a été créé, pourquoi, comment, et tout ça, etc. Savais-tu que la France a 12 fuseaux horaires? Et c'est le pays qui a le plus de fuseaux horaires.
Ouais, ah oui, avec le TomTom, exactement. Et donc, voilà. il faut gérer ces fuseaux-là horaires. Non, après, en fait, quand tu le dis, tu dis, bah oui, c'est évident. Mais comme ça, c'est vrai qu'au premier abord,
la Chine n'a pas de fuseaux horaires, tu vois. Donc, un grand pays comme ça. Et tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui te racontent au début, c'est super intéressant. Et puis après, il parle un peu des librairies disponibles dans les langages, PHP, JS, tout ça. Comment c'est utilisé, leurs points faibles, etc. Donc, c'est pareil, super intéressant.
Après, les dates, c'est toujours la merde quand même. Hein. On sait
on peut
que.
Le dire. Voilà,
on peut le dire.
Donc, surtout en JS.
Ouais.
JS, langage codé en 10 jours, qui a été super mal codé à la base.
Mais qui a évolué, Patrick, il faut le dire. Il faut le dire.
Heureusement.
Une autre conf sur Angular?
Ouais, alors celle-là est beaucoup plus longue, mais je l'ai regardée entièrement, je l'ai regardée en deux fois, 2h46 quand même. C'est une sorte d'atelier quand même, parce qu'il fait pas mal de démos. C'est Amadou Sall qui nous fait un retour sur Angular, donc la nouvelle version 17, qu'est-ce qui a changé par rapport à la version d'avant, et les nouveautés, etc., les évolutions. Donc hyper intéressante, pour moi qui n'utilise pas Angular au quotidien, tu vois.
Avec les signaux. Tout ça.
Ouais, les signaux, les nouveaux systèmes de template, il y a nouveau les forts, tout ça qui ont changé. En fait, ils ont simplifié énormément de choses. Par contre, tu sens qu'on est entre deux versions, tu vois. Il y a des nouveautés qui cohabitent encore avec les anciens trucs, tu vois. Je pense que la prochaine version sera encore plus clean. Mais il y a vraiment un changement au niveau d'Angular réel qui est beaucoup plus simple à utiliser, tout ça. Donc, vraiment, il devient presque sexy, tu vois, Angular.
C'est méchant de dire ça.
Non, je déconne pas. Non, vraiment, je trouve qu'Angular, ça devient pas mal. J'ai presque envie d'utiliser.
Ok. Ouais. Ça marche.
Celle-là, super intéressante aussi, si l'IA vous intéresse. Et puis, de toute façon, c'est un peu dans l'actualité, on n'a pas trop le choix. Arnaud Pichery et Aurélien Coquart qui nous expliquent vraiment comment fonctionne l'IA générative, comment elle crée les tokens, comment elle calcule les tokens, tout ça et tout ça. Donc, ça va toujours assez loin hein, dans les explications. Ce n'est pas juste en surface, c'est vraiment en profondeur. Il t'explique en détail. Donc, pareil, super intéressante. J'ai appris plein de choses sur cette vidéo puisque je ne suis pas spécialiste de l'IA encore. Et voilà, ça m'intéresse de savoir comment ça fonctionne, comment elle calcule.
Pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire?
Non,
pas encore. Ça veut dire que tu as un souhait de plonger dedans.
Je veux pas être développeur IA, mais il faut, en tant que développeur, je pense qu'on est obligé de s'intéresser parce qu'on va devoir l'utiliser, en fait, on n'a pas le choix. C'est clair que ça va changer nos façons de travailler. De toute façon, à mon avis, c'est soit tu prends le train en marche, soit tu restes sur le bord du quai. Donc voilà.
Ouais, on est complètement d'accord. De toute façon, c'est comme on le dit souvent, utiliser la magie, c'est bien, mais comprendre la magie, c'est quand même vachement bien. C'est vachement mieux et beaucoup plus intéressant. Et puis même intellectuellement aussi, de savoir comment ça fonctionne, même si tu ne vas pas le faire toi-même. Tu sais pourquoi, par exemple, t'as ton prompt ou ta requête, là, elle a croqué je ne sais pas combien de tokens. Pourquoi? Ouais. Bah oui, parce que telle raison et telle raison et tout ça.
Bah ça, il t'explique justement là-dedans. Il t'explique les tokens, comment il les fait.
Ouais. Excellent. Autre conférence sur l'IA et la médecine.
Ouais, alors ça, c'est un peu plus... Alors moi, j'ai trouvé intéressante aussi, c'est Jean-Emmanuel Bibeau qui explique. Alors le mec, déjà, il est surdiplômé, il fait... je sais pas comment il fait, il doit avoir des clones ou quoi. Au début, ils expliquent son CV, je dis, mais c'est quoi ce mec Donc, il explique, en fait, l'utilisation de l'IA en médecine en fait, il donne un cas vraiment précis, c'est comment faire des diagnostics de maladies, etc. Et il explique, en fait, tout le process et les biais, en fait, de l'IA. En fait, comment l'IA peut avoir des biais, te donner des mauvais diagnostics, etc. Comment il valide aussi le diagnostic, comment, parce qu'il faut que quelqu'un dise, OK, elle a raison, elle n'a pas raison, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu plus théorique, mais hyper intéressant aussi, parce que ça t'indique aussi comment l'IA fonctionne, j'allais dire dans sa tête, mais non, mais comment le... voilà. Comment ça, tu peux avoir des billets, tout ça. Donc, c'est hyper intéressant, pareil, parce que ça s'approche un peu du code et de ce qu'on peut avoir. Voilà. Très intéressant.
Yeah. Nice. Nice, nice. Et il y avait une conférence sur Tabby.
Ouais, une conférence courte, en fait. C'est, parce qu'ils ont des conférences qui sont à 45 minutes et puis d'autres qui sont plus courtes de 15 minutes. Et il y a Rafik Ferouk qui nous a fait une petite conf de 15 minutes sur Tabby pour expliquer ce copilote qui est open source. Et que tu peux installer sur ton ordi. Voilà.
Nice.
Voilà. Donc, moi, ça fait 3 jours, je crois, je l'ai installé et j'essaye.
Et tu vois une différence avec Copilot ou pas?
Ah ouais.
Mais en mieux, en pas bien, en quoi?
Alors. Ah, donc, déjà pour donc déjà pour l'installer c'est pas très compliqué, enfin en tout cas sur Mac c'est pas compliqué, après il y a les versions Docker tout ça, moi je l'ai installé sur Mac avec Homebrew, donc c'est facile à installer, tu l'installes, t'as ton truc, tu choisis un modèle, t'as différents modèles.
D'accord.
Donc si tu l'as pas il va te télécharger automatiquement, tu lances la machine et tu as Tabby qui est disponible donc sur le 8080 et t'as aussi une interface où tu te connectes pour rentrer 2-3 infos, choisir, peut-être changer le modèle, et tu as aussi des stats sur combien de propositions tu as fait, combien tu en as accepté, tout ça.
Okay.
Et tu as des, comme tu voilà, t'es sur la page, là, il y a aussi des extensions pour VS Code.
Que tu dois installer de la même manière que tu installes celle de Copilot. Donc et après, tu connectes, en fait, ton extension et ton serveur Tabby, quoi. Okay.
Ouais, il se connecte automatiquement parce que par défaut c'est 8080, donc comme tu l'as lancé, il va se connecter automatiquement. Tu rentres un token que tu vas chercher justement sur l'interface web de ton install, que tu rentres dans VS Code et à partir de là ça fonctionne. Donc ça fonctionne pareil que Copilot. Une fois qu'il est dans.
Et je vois que t'as aussi un chat, donc tu peux lui poser des questions en mode chat et il va répondre.
Ça, j'ai pas essayé encore. Bah ça, j'ai pas encore essayé, mais voilà.
Moi, je suis gros fan de ça avec Copilot, tu vois, en mode, vas-y, comment tu fais ça en SQL comment ça marche les triggers en Postgres, tout. Et en fait, il te donne des informations. Pour l'instant, je suis pas en mode confiance aveugle. Je regarde quand même la doc, tu vois. Et pour le coup, non, c'est quand même super, c'est quand même top, quoi. Parce que pour l'exemple de Postgres et et des triggers, c'est pas un truc que tu fais tous les jours, et donc de tête c'est difficile de te rappeler comment tu crées un trigger et tu vas déclencher telle fonction, donc voilà, c'est un peu voilà. En tout cas moi j'étais pas en capacité de le faire de tête, et donc j'ai dit tiens, je vais utiliser Copilot en mode chat pour poser la question. Néanmoins, je vais quand même checker la réponse. Et pour le coup, c'était vraiment exact. Et là, je vois il y a chat completion. Donc, ça veut dire qu'il y aurait potentiellement aussi un chat dedans, quoi.
Ouais, bah, j'ai pas essayé celui-là, tu vois.
Okay.
Bon, ça fait 3 jours que je l'essaye. Alors, moi, j'essaie un modèle. J'ai un modèle que j'ai principalement en ce moment. J'en ai essayé un autre, mais il déconne un petit peu tout ça. Donc, j'ai pas encore essayé tous les modèles. Celui que j'essaie en ce moment, il est un petit peu. Comment dire? C'est un petit peu un copilote con, quoi. Tu vois?
Ah ouais, ok.
Il n'est pas très intelligent, tu vois.
Okay.
Donc, il me sort des trucs. Il est pratique pour. Des fois, il devine des choses, donc ça m'évite de dupliquer le code, machin, tout ça. Il le complète tout seul. Mais il n'est pas top, quoi.
Après, est-ce que ce modèle, il y a des gens qui le font évoluer? Est-ce qu'il est activement entraîné ou. Pour l'instant, il est posé au milieu de la table et chacun peut...
Je sais pas s'il y a des... Je sais pas, en fait, parce que tu le télécharges, est-ce qu'après, il y a des mises à jour du modèle? Ça, j'en sais pas. Après, je te dis, il y a des modèles, il y en a peut-être, je sais pas, 8 ou un truc comme ça. Donc, si tu vas peut-être dans le menu des modèles, là, tu verras.
Il faudrait voir aussi l'activité des modèles. Est-ce qu'ils sont entraînés? Est-ce qu'ils sont poussés? Ils sont mis à jour? Bien sûr.
Après... Ça dépend de la puissance de ta machine, parce que moi, j'en ai essayé un. Celui qui est meilleur, parce qu'il y a un tableau de comparaison des modèles, tout ça, ils en ont fait un.
Okay.
J'ai mis le meilleur, du coup, et je pense que ma machine n'était pas assez puissante. Donc,
ah ouais, à ce point-là
que... Ah ouais, du coup, ça fonctionne en local. Donc, tu vois, tu as les modèles, là.
Ouais.
Donc, il y a plusieurs modèles, tu vois. Il y a Llama 2 aussi. Donc, voilà, c'est à tester. Mais alors, avantage, c'est que déjà, c'est en local. Donc, même en offline, ça fonctionne. Parce que tu vois, copilote, quand tu es dans l'avion, tu l'as pas.
Et oui. Et oui.
Voilà, quand tu... Dernièrement, j'ai pris l'avion et je fais ah. Tu sais, t'as l'habitude de copilote. Attends, attends, attends.
Et là, ouais, c'est vrai.
En copilote, tu fais merde.
Ouais, 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 bien sûr. Mais ouais, j'ai, ça, ça m'est arrivé aussi sur le train où j'ai été bloqué à ça et je fais ah ouais, j'avais
manque, hein, t'as vu.
Et ouais, ouais, c'est, exactement. Et sur des. Sur, après, l'idéal, c'est toujours de lui donner un contexte. Tu sais, si t'as tes deux panneaux, par exemple, t'as. Là, un exemple, c'était un store et un composant. En fait, bah, tu refacto et tu déplaces toute la logique dans le store. Et au moment où tu crées ta fonction, bah, il te la recolle directement parce qu'en fait, bah, c'est, ouais, tu la déplaces. Donc, il te fait tous les transferts qui va. C'était bluffant. Donc, OK. Bon, ce qui est cool au moins, c'est que potentiellement, ça tourne en local. Et, et donc, au moins, il n'y a pas de... À tester, de voir comment les modèles évoluent. Et,
à voir, mais il le présente... Bah, Rafik, là, celui qui a fait la conf, il le présente aussi comme un outil qui peut être utilisé en entreprise. Si tu es dans une entreprise qui ne veut pas utiliser Microsoft, machin, par une question de
bien sûr.
Et ouais. Et ben, en fait, tu peux installer ta bille pour avoir un truc partagé en fait dans l'entreprise. Alors après, il y a peut-être un truc à payer parce qu'il est open source, mais si jamais tu l'utilises en entreprise, tu dois peut-être payer un truc, une licence ou quelque chose comme ça.
Allez, mais ça reste quand même raisonnable. Ouais.
Mais voilà, ça peut être intéressant aussi pour une entreprise.
Ouais, sur un petit serveur local. C'est l'instance en local, en fait, et tous les devs, en fait, se mettent dessus. Et peut-être, après, est-ce que tu peux entraîner
Peut-être qu'elle apprend au fur et à mesure.
Ton modèle, tu vois, tu peux entraîner ton modèle par rapport à ton propre code, quoi. Par exemple, si ton projet est en Rails, tu lui files à bouffer la doc de Rails, tu vois, et peut-être qu'il il va être plus pertinent. Tu lui donnes à bouffer toute ta code base. Enfin, tu vois, il faut aller explorer. Ah ouais.
Non, c'est pas mal. Hein.
Intéressant.
Ouais,
super intéressant. Allez, on déroule. Retour de conférence encore sur du headless. il y a beaucoup de vidéos, mais en même temps, on est dans l'ère de la vidéo, même si on est encore
sur. On est en train d'en faire une, alors, tu vois.
Sur le podcast, exactement. Alors, pour ceux qui nous écoutent sur le podcast, tant mieux. Sachez aussi que vous pouvez nous suivre sur YouTube. Retour sur du headless, on vous invite à écouter l'épisode justement sur les CMS headless et comment utiliser WordPress aussi en mode headless. Et donc là, il y avait un retour d'expérience de quelqu'un qui a utilisé WordPress en headless avec un Next en front depuis un certain temps. Et donc, toi, tu l'as vu ou tu étais à cette conférence?
Non, j'ai regardé la vidéo. Alors, WebMardi, c'est sur Lausanne. Donc en Suisse, c'est tous les premiers mardis du mois, si je ne me trompe pas, ouais, je crois que c'est ça, ils ont une conférence. Et ils sont assez sérieux parce qu'ils ont déjà les conférences programmées à l'avance et tout ça. Donc ils sont vraiment tout le temps, c'est carré quoi, ouais, c'est suisse. Ouais. On va dire. Ils ont même des sponsors et tout. Donc toujours super intéressant. Donc là, la conf est en anglais, mais elle n'est pas très compliquée à comprendre. C'est Super 8, donc c'est une agence de Lausanne qui fait des sites assez intéressants comme Jazz Montreux Festival, des choses comme ça, tu vois. Donc des vrais sites, quoi. Tu vois. Et donc, eux, leur process interne, en fait, c'est qu'ils utilisent WordPress en headless et en front, ils utilisent Next et ils ont développé une librairie, en fait, qu'ils utilisent en interne et ils l'ont mis en open source. Donc, ils l'ont distribué. Maintenant, elle est accessible directement. Donc, je crois que j'ai mis le lien sur, il y aura dans les notes. Et le concept, c'est que, alors je vais réexpliquer, Gutenberg utilise React pour développer les blocs de l'éditeur en admin. Par contre, en front, c'est du rendu HTML, c'est pas du React ou du JS. Okay. Et eux, en fait, ils ont voulu faire un truc qui leur permet de développer un bloc Gutenberg en React qui soit réutilisable également en React dans le Next, en fait. C'est-à-dire qu'il ne code le bloc qu'une fois. Et il est utilisé dans le WordPress et dans le Next.js en même temps. Et donc, ça leur permet d'avoir des composants en fait, développés en même temps pour Gutenberg, pour l'éditeur et pour le Next. Donc, ils ont un gain de temps parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà, il y a tout le process, tout est dispo sur le repo. Et, plutôt intéressant. Alors, il y a des limitations, évidemment, mais voilà, ils sortent des sites, ils shippent des sites comme ça et ça fonctionne. Et, Donc, tu as du Next qui est hyper, hyper rapide. Et en même temps, derrière, pour l'édition, c'est hyper pratique pour les éditeurs parce que Gutenberg est vraiment agréable à utiliser. Voilà. Donc,
nice.
Petite vidéo. Voilà.
Le même composant pour l'éditeur et pour le front, c'est Smart.
Ouais. Ouais, c'est pas smart. Mal. Hein.
Ah ouais. Mmh. Bien ouais, les gars. Bien ouais. Donc, petite conférence de 40 minutes où il explique, on va dire en théorie, où il montre aussi comment ils ont fait.
Non, il y a pas mal de démos. Ouais. Il y a pas mal de démos live. Okay. Elle édite des composantes. On voit que ça met à jour le front et tout.
Et c'est une librairie open source.
Bah, ils l'ont rendue open. Enfin, ils l'ont ouverte, en tout cas. Okay. C'est dispo. On peut l'utiliser.
Nice.
Faire des requêtes, tout ça. Après, ils disent qu'ils n'ont pas forcément le temps de répondre à toutes les issues. Mais
ouais, ça, après, s'ils l'ouvrent aussi en open source, c'est que la communauté peut aussi s'en emparer, on va dire, et contribuer et faire évoluer. Ouais. Et ouais, entre gérer toutes les issues et faire de la review de pull request, c'est pas le même job non plus, quoi. Parce que moi je veux ça, mais en fait ils ouvrent une issue pour faire une feature request, mais ils la codent pas et ils font pas de pull request. Bon bah ouais, c'est pas le même job, quoi. Que en mode ok, j'ai besoin d'une nouvelle fonctionnalité, j'ai codé une nouvelle fonctionnalité, j'ai publié la pull request, j'ai fait les tests, j'ai tout fait, tout nickel, et la personne qui valide le projet, ou en tout cas qui est à la maintenance du projet, n'a plus qu'à relire, à peut-être ajuster ou à faire des retours. C'est pas le même job, quoi. Donc,
non, c'est du boulot à l'open source.
C'est clair. C'est clair. C'est vraiment du boulot. Yes, on déroule Superstack. Donc
c'est ça
c'est le repo qui est open source qu'on peut directement utiliser. C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Et ils l'ont appelé Superstack parce que l'agence elle s'appelle Super 8.
C'est ça.
Tout simplement. Ok. Facile. Facile. Allez, on passe sur un truc un peu léger et plutôt intéressant, marrant en tout cas. Un Doom qui a été fait en CSS uniquement.
Uniquement. Ouais, t'as vu ça?
Ouais,
ah oui, nice. Regarde l'onglet JS, il n'y a rien.
Ah ouais. Et
Limonada, il y a marqué dans le JS. J'aime bien le.
Ah ouais. Et
pour avancer, tu tires, je sais plus avec espace ou.
Ah ouais, et tu scrolles. Non, bah tu scrolles. Ah ouais, en fait, tout se fait à la souris, enfin au scroll, et ouais, en fait, là, tu contrôles pas du tout là où est-ce que tu vas, mais c'est.
Donc c'est pas évident à manœuvrer, mais.
Ah oui, oui. Ouais, c'est complètement.
Mais la performance de faire ça qu'avec du CSS, franchement.
Ouais, parce que là, c'est nada, nada, limonada. Là, clairement, on voit bien sur... donc, c'est un code pen. Donc, on voit qu'il y a un code pen et il n'y a rien dans le JS, quoi. C'est que en CSS. C'est beau. C'est beau. C'est complètement useless. On ne va jamais utiliser ça. Mais juste pour, on va dire... l'expérience et pour la beauté du geste, c'est top, quoi.
Ah ouais, c'est clair.
Et on a la même, par contre, là, ils ont fait ça sur WordPress, c'est ça?
Ouais, c'est un plugin que tu peux installer. Donc, si tu lances la machine, le Playground, là... Non, c'est pas celui-là. Normalement, il y a un lien qui te permet de lancer la machine.
Ok.
Et peut-être un peu plus bas. Il est marqué Play et voilà.
WordPress Playground.
Non, c'est peut-être pas ça. Encore, on va y arriver.
On va y arriver.
Descends un peu. Non, ça va être vers le bas, je pense. Alors, Play. Et en fait, tu installes un plugin, tout ça, et ça te lance un Doom donc dans le navigateur. Et là, par contre, c'est autre chose que celui de CSS parce que tu peux vraiment jouer. Voilà, Play Doom, tu l'as juste en bas.
Alors, Play Doom in WordPress.
Alors déjà, ça, c'est un Playground, c'est un WordPress qui se lance dans le navigateur, en fait, sans install tout ça, donc via Wasm, tout ça. Donc ça, c'est déjà pas mal. Tu fais skip,
là. Ça, c'est... Attends, mais en fait, au-delà de la news où on peut jouer à Doom, moi qui suis plutôt extérieur à WordPress, le fait qu'on puisse lancer un WordPress et, on va dire, tester, administrer directement... Ouais. Pour faire des tests, c'est super bien, non?
Oui, on avait déjà parlé. En fait, ils ont lancé le système de Playground.
Désolé,
en fait,
je m'en rappelle plus.
Non, mais ça fait un moment. Mais en fait, ça petit à petit, ils l'utilisent de plus en plus. C'est un système qui marche avec Wasm, qui fait tourner un PHP et un SQLite aussi. Et ça te lance un install de WordPress, une vraie, quoi.
Nice.
Là, il est en train de loader. Skip le loading save, là, et ça devrait marcher. Et après, tu fais play, là. Le bouton qui est pas, juste au-dessus du gros bouton.
Ah, ok, le gros bouton.
Ouais, c'est très clair, hein, le truc. Tu... Et voilà. Ouais. Et là, ton Doom, il fonctionne. Et t'as un vrai Doom, hein, si tu.
Comme c'est en mode. En mode
est-ce
en
que t'as joué à l'époque à Doom. Ouais,
bien sûr que j'ai joué à Doom.
Évidemment. Et là, c'est le vrai. Hein.
Ok, et là, c'est le vrai de vrai.
Tu tires et tout, machin, tu récupères des armes et tout. C'est...
Ah ouais, et par contre. Ouais, excellent.
Et ça tourne.
Ah ouais, là, c'est... on est dans le vrai, vrai Doom.
T'as vu ça? Ah ouais, alors les jeunes, les jeunes qui regardent le podcast, ils doivent dire
mais c'est quoi ce truc tout pourri, quoi. Ce jeu est nul. Ce jeu est complètement nul. Mais ouais, après, c'était ce qu'il faut. Il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était le jeu trop bien. Ouais.
En 3D. Où,
mais ouais, c'est, et après, il y avait Duke Nukem et tout ça. Enfin, toute la clique. Et après. Pareil, il n'y a pas grand intérêt de jouer à Doom à part le fait de faire tourner ça sur un WordPress. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la technologie qui est utilisée pour justement en fait, mettre ça en place. Et OK, aujourd'hui, on fait ça, on fait tourner un Doom, mais demain, on fait tourner autre chose dessus. Et c'est là où, en fait, où vraiment, c'est vraiment, vraiment intéressant, quoi.
Ouais, carrément. Tu vois, on fait tourner un WordPress sans rien installer, on fait tourner un Doom. Voilà, bientôt on fera tourner une IA directement dans le browser, j'en sais rien, mais tu vois, c'est ouais. Jusqu'où ça va aller, je sais pas.
Intéressant. Yeah. Yes, comment on peut utiliser les nouvelles features de CSS dans le navigateur et en fait c'est faire. Vas-y, je te laisse présenter le truc parce que c'est un peu touchy.
En fait, c'est une query classique comme ta taille d'écran, tout ça, sauf que tu vas faire une query pour demander si JavaScript est activé ou pas. En fait, l'intérêt, c'est qu'en fonction de si JavaScript est activé ou pas, si par exemple tu n'as pas de JavaScript, peut-être que ça ne s'affiche pas sans JavaScript, là, s'il n'est pas activé, tu vas faire un CSS qui va faire afficher quelque chose à la place ou afficher directement. Voilà. Donc ça te permet de détecter les features. Si tu utilises des animations, etc., tu vas détecter les animations. Enfin, tu sais que ça ne va pas marcher, donc tu vas mettre directement l'élément. Tu ne vas pas faire le système de fading ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est une query.
Si je résume, si j'ai bien compris, hein, je ne suis pas sûr de tout avoir compris, c'est mon site qui va faire une requête à genre « can I use machin ?» va regarder en fait si toutes les fonctions dans mon navigateur sont disponibles et si c'est bon, il va faire un chargement conditionnel ou c'est pas
ça? C'est beaucoup plus simple que ça.
Beaucoup plus simple, ok.
Non, ça va pas aussi loin. Non, regarde, descends un petit peu, tu verras le code. En fait, c'est tout simplement, regarde, media scripting enable. Est-ce que le JavaScript est activé ou pas en fait?
D'accord. En fait, tu viens juste tester. Mais quel est l'usage? Parce que la majorité de nos navigateurs aujourd'hui supportent le JavaScript. Mais
c'est vrai.
Je ne sais pas.
Imaginons. Je ne sais pas. Écoute, il y a peut-être un lecteur d'écran ou des choses niveau accessibilité ou des gens qui désactivent le JavaScript sans vraiment savoir pourquoi ils le font. Mais des fois, ils le font. Enfin, je ne sais pas. Il y a peut-être différents cas de figure ou... C'est vrai. Okay. Je sais pas. À un moment, on va dire. C'est vrai que je sais pas si ça existe des gens qui utilisent pas JavaScript. Je pense que oui. Mais en tout cas, si t'as une animation qui va afficher tes textes, tout ça, qui du coup ne va pas fonctionner sans JavaScript. Mmh. Donc la personne va arriver sur le site et il y aura rien. Ça sera vide. Il y aura pas de texte.
Ouais,
tout ça,
ouais. Là, en fait, t'as une sorte de fallback.
Voilà, c'est un fallback. En fait.
Mmh. Ok. Voilà.
Et en fait, ça fonctionne. Tu vois, maintenant, on a beaucoup de sites avec des scroll animation, tout ça, là.
Ouais.
Même si bientôt, on le fera en CSS. Mais voilà, il y en a beaucoup. Et avec GZAP, tout ça, tu pourras détecter. Y a pas, tu vois, ils donnent un exemple où il y a une animation et sans animation, si tu n'as pas JavaScript, etc. Donc...
Ouais, ok, je comprends. Je comprends. Ok, en fait, c'est beaucoup, oui, et effectivement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple que faire des requêtes pour voir si ça supporte tout. Ok, et en fait, c'est toutes ces préférences d'animation qui peuvent être gérées dans le système d'OS. Souvent, en fait, on peut désactiver les animations volontairement. Ouais. Là, en fait, on a un moyen en fait de détecter dans notre CSS si ces animations sont activées ou pas quoi. Et donc on peut gérer ça directement dans notre code, c'est ça?
Oui, ouais. Tu
okay.
peux, bah, la query, en fait, ouais, parce que il y a des personnes qui désactivent les animations, qui ont des problèmes d'épilepsie, des choses comme ça, donc c'est plutôt préférable de désactiver les choses qui bougent dans tous les sens. Et donc ça, il faut le respecter aussi. Quand vous faites des animations, c'est de respecter les personnes qui désactivent, de les désactiver aussi.
Les choix, le choix, ouais. Le choix volontaire. Ouais,
ça, okay. c'est uniquement CSS, hein, ce qu'ils nous font voir.
Ouais, okay.
Et c'est pris en charge dans pas mal de navigateurs, en fait. Donc pour ceux qui ont besoin de cette... Cette fonction, bah, elle est a priori en bas, je crois qu'il y a les browsers. Elle est plutôt disponible, je crois. Non, c'est pas marqué les browsers.
Non, c'est pas. Mais on pourra aller voir sur ouais. sur Can I Use, le site référence de toutes les API de tous les navigateurs. Mm. Yes, nice, parfait.
Voilà.
Et petite librairie qui s'appelle Rector et qui nous permet de faire du refacto PHP.
Ouais, alors ils ont sorti il y a pas très longtemps la version 1 officielle, et donc c'est un système, un tool, un peu comme un linter, tu vois, qui va te regarder si tu as fait des erreurs de code, s'il manque des points virgules ou des trucs comme ça. Bah, c'est un peu le même principe, tu vas lancer le script et il va te refactoriser en fait ton code PHP, le rendre un petit peu plus efficient, plus clair, tout ça.
Mais par contre, est-ce qu'il va refactorer? Et
non,
là,
il
le fait vraiment, ou il te fait une ouais. suggestion et après que tu peux accepter ou...
Alors, bonne question, j'ai pas testé. Alors, peut-être qu'il y a une version avec un -w qui fait vraiment qui réécrit, ou il y a peut-être une version et une version qui te suggère. Il y a sûrement les deux, j'imagine, okay. parce que la plupart font ça au niveau des linters, tout ça. Mais il réécrit vraiment le. En tout cas, il te. Voilà, il prend une fonction, il va te la dire, ah, ça c'est mieux comme ça, machin, c'est plus clair, etc.
Donc, ouais, top.
C'est pas mal, et c'est open source.
Top. Ah, c'est vraiment. Par contre, tu dois avoir une version de PHP assez évoluée, je suppose, non?
Ouais, bah après, là, les versions, la plupart des gens utilisent la 8, donc il n'y a pas ouais. trop de soucis.
À part Jean-René qui a codé son framework en PHP 3 à l'époque.
Oui, il ne peut pas le faire tourner.
Ouais, lui, de toute façon, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais oui, ouais. On va dire sur du PHP dit moderne, on pourra utiliser ouais, ouais. ce type. Est-ce que c'est intrinsèquement lié à Laravel ou rien à voir? C'est
rien
vraiment
à
du PHP pur, pur quoi.
Ouais, ouais.
Donc j'ai une page en PHP, je peux quand même l'utiliser pour faire du refacto.
Ouais.
Et peut-être aussi, je peux juste l'utiliser aussi à des fins pédagogiques, de voir, on va dire, peut-être ouais. qu'un junior pourrait voir comment il pourrait améliorer son code. Et ça peut être super intéressant de voir, enfin même un junior, mais même tout le monde en fait, pourrait voir comment on pourrait refacto. Et quels sont les patterns que j'ai utilisés sans le savoir, ou justement je devrais utiliser un espèce de pattern pour faire ouais. ça en plus propre. Yes, top.
C'est pour tout le monde, parce que même, enfin personnellement, j'ai tendance à refactoriser souvent les deuxième fois le code que j'ai écrit, ou même des fois une troisième fois.
Mais il faut. Et enfin, ouais. c'est après, je rêve du moment où tu arrives à faire un truc propre du premier coup.
Non.
Perso, j'y crois pas. j'y crois pas du tout. T'es obligé, et pour le faire évoluer, tu dis ok, là, ça sera plus facile dans le futur pour le faire maintenir et tout ça. Et justement, ça peut être super intéressant aussi de voir comment on peut documenter en fait nos packages. Et là, on a un article de Deno, donc Deno qui est un autre runtime où on va pouvoir ouais. exécuter du code JavaScript côté serveur. Et ils viennent avec un article sur comment documenter les packages, on va dire quelles seraient les bonnes pratiques. Et justement, ils font un lien aussi avec JSR. Ouais. qu'on a parlé
le dernier épisode.
Exactement, sur le dernier épisode, on était un peu sceptiques, on comprenait pas.
Bah, tu vois que finalement,
au final, tout ça, tout concorde. Donc article assez intéressant où justement il nous explique comment documenter toutes les fonctions, comment écrire la doc, du JS doc, du HTML, du du Markdown et tout ça. Donc, pour les personnes qui ont envie de justement de rendre exploitable leur code, aussi bien pour leurs collègues que pour aussi, s'ils ont un projet de publier ce package en open source, ça peut être super intéressant de regarder en fait des gens qui travaillent et qui font ça toute la journée, qui
Ouais.
partagent en fait les bonnes pratiques pour justement documenter ce code-là et pourquoi en fait il faut le mettre en JSDoc. On dit ouais bah ça sert à rien et tout, mais ouais, mais en fait si vous avez du TypeScript en fait bah dans l'autocomplétion on va avoir plein de choses qui vont se faire tout seul et
Ouais,
donc
mais non.
mais non, oui mais non, mais
Non,
ouais.
déjà. Non, déjà, alors JSDoc, on va expliquer vite fait, c'est que tu mets les commentaires au-dessus des fonctions, tout ça, et automatiquement, c'est JSDoc est capable de te générer une doc pour les fonctions. Après, les commentaires là qui sont au-dessus des fonctions, c'est aussi important pour toi dans 6 mois, quand tu vas revenir sur ton code et tu vas dire, attends, ça fait quoi ça? Merde, je sais plus. déjà, d'un. Alors, au début, ce qu'ils expliquent, c'est que ils ont fait un mixte entre JSDoc, donc génération de doc automatique avec les commentaires, et JSR qui a l'air d'avoir dans son flow en fait un système qui, comme on avait dit dans le dernier épisode, en fait, qu'ils ajoutaient automatiquement les types pour TypeScript, tout ça. Là, a priori, ça prend les commentaires de JSDoc et ça doit générer aussi une doc automatiquement. Donc, comme quoi, JSR, voilà, ça a l'air pas mal finalement.
Encore plus on voyait pas l'usage la dernière fois, et en fait, on le découvre au fur et à mesure
Ouais.
qu'on explore. En fait,
Ils l'ont déjà, eux, tu vois. Ils ont déjà
exactement.
l'usage. Je suis
Donc,
étonné qu'ils aient déjà sorti un article d'ailleurs là-dessus, qu'ils aient déjà utilisé tout ça. Donc, hyper rapide.
top, 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 top. Si on parle de documentation, on se devait de montrer encore un framework pour éditer notre documentation. Par contre, là, il se veut minimal et il est fait en React avec Vite. Il est en alpha, autant dire,
Ouais.
c'est vraiment le début, peut-être pas à utiliser tout de suite, mais
Non.
à regarder en fait quel est son prisme et pourquoi il est intéressant. Ça s'appelle Vox avec VOCS.
Un de plus.
Un de plus, ouais.
Je sais pas combien il y en a des générateurs de doc, c'est un truc de fou.
J'ai peur qu'on soit un peu dans un truc un peu sans fin, et j'ai du mal en fait à voir la distinction entre tous ces outils-là, quoi.
Bah à force, ils se ressemblent tous en fait. Ils font à peu près tous la même chose, Markdown,
Ouais.
etc. T'as l'impression qu'il y a un truc un générateur de doc qui sort toutes les semaines, donc je sais pas trop. Mais voilà, ça m'a fait marrer. Alors j'ai dit tiens, un de plus, on va le mettre.
Ouais, bah ouais, bien sûr. Mais
Mais ouais.
clairement, clairement. Bon, à tester au pire, il n'y a rien de si vous êtes plutôt facile avec le React et avec le MDX, bon, bah,
Ouais.
vous avez cette nouvelle possibilité là. Yes. Écoute, Patrick, on en reste là pour cet épisode.
Ouais, carrément,
Et
carrément.
on fait un petit spoiler sur le
Ouais.
prochain épisode. C'est quoi?
Bah, State of HTML, le retour du sondage, majoritairement répondu par des Américains. J'ai regardé un petit peu les stats, mais
Ouais,
bon,
quand même.
tant pis, voilà, c'est comme ça. Et puis la Google I/O, qui, voilà, les nouveautés CSS, JS, navigateur Chrome, même si c'est Chrome, bon c'est Chrome. Essayez d'utiliser autre chose que Chrome, mais bon, chacun fait ce qu'il veut.
Yes, ça marche. Un grand merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. Pensez à mettre un petit pouce, un petit like, un petit
Ah ouais,
commentaire.
carrément, il y a
Ça
un commentaire.
fait toujours plaisir. Un grand merci pour toutes les personnes qui nous sponsorisent via le GitHub Sponsor. Un
Ouais,
grand
merci.
merci, un grand merci à vous. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Ciao.
Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.